BFM Business, l'info éco. Léo Dumas.
11h sur BFM Business. Bonjour à tous. Alstom lance une augmentation de capital de près d'un milliard d'euros. Le constructeur ferroviaire veut achever son plan de désendettement. Il va aussi procéder à une émission obligataire d'environ 750 millions. Endetté à près de 3 milliards d'euros, Alstom a doublé sa perte nette sur l'exercice 2023-2024. La production industrielle en repli en Allemagne, mais moins que prévu. Elle baisse de 0,4% en mars sur un mois. L'indicateur restait sur deux mois de hausse supérieure à 1%. La banque centrale suédoise abaisse son principal taux directeur d'un quart de point à 3,75%. C'est une première en 8 ans dans le pays. On attend demain la décision de la Banque d'Angleterre. Plusieurs de ses responsables se sont dit prêts à voter en faveur d'une baisse de taux. Les ventes de véhicules hybrides Toyota s'envolent et le constructeur en profite. Le géant japonais publie un bénéfice net annuel record. Il a doublé sur un an à 29,7 milliards d'euros. Toyota prévoit de gros investissements dans l'année à venir et donc un net repli de ses profits. AstraZeneca retire son vaccin contre le Covid du marché mondial. Le laboratoire évoque un déclin de la demande. Il y a un surplus de vaccins mis à jour, écrit le groupe dans un communiqué. Samsung va racheter la société française Sonio. Elle est spécialisée dans les logiciels d'intelligence artificielle pour l'échographie fœtale. Avec cette acquisition, la branche de Samsung veut améliorer ses systèmes de diagnostic, montant de l'opération 85 millions d'euros. Un nouvel outil chez OpenAI, la start-up à l'origine de ChatGPT, a mis au point un programme de détection d'images générées par l'IA. Elle permet désormais à des chercheurs d'utiliser son outil. Selon les premiers essais en interne, l'authentification est réussie dans 98% des cas. Le décollage de Starliner repoussé au 17 mai. Le vol est très attendu. Ce serait le premier avec équipage pour le vaisseau de Boeing qui doit rejoindre la station spatiale internationale. Il était initialement prévu hier, mais une anomalie a été constatée sur la fusée 2 heures avant son décollage. Et puis le seuil des 30% d'électricité d'origine renouvelable a été franchi l'année dernière pour la première fois dans le monde. C'est le résultat de l'essor du solaire et de l'éolien. Selon le centre de recherche Ember qui publie ces données, les deux technologies ont généré 13% de l'électricité mondiale en 2023 contre 2% en 2010.
Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmbusiness.com.
BFM Business, tout pour investir. Antoine Larigaudry.
TPI, tout pour investir. Deuxième heure de votre émission, l'émission qui parle de vos finances, qui vous aide à mieux investir. En direct à la radio, à la télé, bien sûr, sur le web, en podcast. Au programme de cette deuxième heure, bah, évidemment, on ne va pas déroger aux traditions. On va voir beaucoup d'immobilier avec Marie Cœur de Roy et ses experts qui seront avec nous, un best-of des dernières semaines avec les problématiques du moment, les prix, évidemment, l'état du marché, les dynamiques du marché. Tout ça à retrouver, bien entendu. Également, les réponses à vos questions. Je vous rappelle, pour nous joindre par email direct à bfmbusiness.fr, vous écrivez sur le compte privé de LinkedIn de Lorraine Goumeau. On vous répond en direct. Il y a aussi par SMS. Vous envoyez un SMS votre question au 7 32 16. Vous tapez le mot-clé business et on répond en fin d'heure, évidemment, à toutes vos questions sur l'investissement. Donc, 8 mai, jour férié, pas chômé. On va tout de suite prendre le pouls des marchés et une tendance très positive pour le moment. Avec Sabrina Salgui qui est toujours avec nous, une tendance toujours bien positive pour le CAC 40 et même qui a tendance à s'amplifier. On est maintenant largement au-delà des 8100.
Oui, on est largement au-dessus des 8100, à 8142 points. On est un peu à 100 points des plus hauts historiques. On gagne 0,82% sur le CAC 40. Dans de faibles volumes, en l'absence de nombreux opérateurs aujourd'hui. Du côté des plus fortes hausses, on a Saint-Gobain qui gagne quasiment 2,50%, suivi de Legrand qui gagne 2,2%, Schneider Electric plus 2,10%. Du côté des plus fortes baisses, c'est encore l'auto, Stellantis qui perd 1,24%, en revanche, lié au voilà, au marché de l'auto qui est sous pression après les perspectives ternes de Toyota et de BMW. Du côté d'Alstom, qui est la star du jour, on gagne 4,17%. On a beaucoup de volatilité sur le titre. Hein. On avait perdu quasiment plus de 6% en début de séance, après donc les annonces cruciales sur son avenir. Donc le CAC 40 reprend 0,82% à 8142 points.
Alors on reste sur Alstom, Sabrina, ce feuilleton qui nous tient en haleine depuis des années, depuis des décennies, j'allais dire. On le rappelle, Alstom avait brûlé plus d'un milliard d'euros de cash au premier semestre de son exercice 2023-2024.
Et enfin, il y a du concret sur Alstom. Le marché sait désormais ce que prévoit le groupe ferroviaire pour réduire son endettement de 2 milliards d'euros d'ici à 2025. Donc, ça comprend plusieurs volets. Le groupe entend dégager 700 millions d'euros via des cessions d'actifs et lever 750 millions d'euros via une émission obligatoire. Hybride. Reste l'augmentation de capital qui s'élèvera à environ 1 milliard d'euros. Elle sera lancée, elle, d'ici le mois de septembre et bien sûr sous réserve de l'aval de l'AMF. Et cet appel au marché représente environ 17% de la capitalisation de la société, donc d'Alstom. Et le but étant pour Alstom de préserver sa précieuse note de crédit qui est située sur le dernier cran de la catégorie non spéculative.
Oui, voilà. En dessous, c'est junk bond. Et voilà. Il ne faudrait pas que les obligations d'Alstom soient notées comme telles, sinon ça compliquerait encore le problème.
Alors,
ces annonces ont été faites pour renforcer le bilan, alors que le groupe est quand même parvenu à réduire sa consommation de cash sur l'ensemble de l'exercice fiscal 2023-2024.
C'est ça, le groupe revient de loin. Le groupe avait, comme vous l'avez mentionné Antoine, consommé un peu plus d'un milliard d'euros de cash. Et pour la deuxième partie de l'année, donc, Alstom a au contraire dégagé un flux de trésorerie positif de 562 millions d'euros. Donc au final, le groupe n'a brûlé que 557 millions d'euros en 2023-2024, c'est moins que redouté par le marché. Du côté des comptes, les comptes sont plutôt globalement meilleurs que prévu. Et Alstom a donné des perspectives pour l'ensemble de son exercice en cours.
Alors, à la bourse, l'action Alstom a réagi avec beaucoup de volatilité.
Beaucoup, oui. On n'arrive pas à la suivre.
Voilà, à l'ouverture, on regardait ça ensemble. Le titre qui est ouvert en très forte baisse, plus de 6%, ensuite rebondi de plus de 9%, puis au-delà des 10%. Est-ce que c'est pour autant la revanche des mal-aimés en bourse? Je pense alors à des titres comme Corian ou Orpea, ou alors
Worldline.
Worldline.
Oui, on va y arriver, Antoine.
Voilà, Worldline ou encore ces titres Atos qui ont connu des destins boursiers très très compliqués.
Très très compliqués.
Est-ce que c'est la revanche de ces groupes qui ont tant perdu en bourse, quoi?
Alors peut-être que le marché anticipe que finalement c'est le Alstom a atteint le fond de la piscine, mais en tout cas, pour Worldline, le marché est un peu plus positif sur le titre, qui avait gagné 10% après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Et surtout, le groupe avait réitéré ses perspectives pour 2024. Le groupe avait connu une année 2023 cauchemardesque. Et même début janvier, il y avait Crédit Agricole qui était venu au secours de Worldline. Donc, le marché anticipe un meilleur avenir boursier peut-être pour Worldline.
Effectivement, et Alstom, on le rappelle, effectivement cette forte volatilité un petit peu endémique sur le titre, qui gagne 34% depuis le 1er janvier, mais qui en perd 32 sur un an.
Aussi, donc, on voit que c'est à mettre en perspective avec la forte baisse d'Alstom.
Exactement, et sur le très très long terme, par exemple sur 3 ans, on perd quasiment 65%. Merci beaucoup.
Merci
Sabrina.
Antoine.
On se retrouve demain dans Tout pour investir. Vous serez sur le pont et restez avec nous dans quelques instants. On passe à l'immobilier.
Tout pour investir, la place de l'IMO.
La place de l'IMO avec Marie Cœur de Roy. Bonjour chère Marie.
Bonjour Lorraine, bonjour à tous.
Nous ne sommes pas seuls, notre éditorialiste nous a rejoint, Stéphane Descartier. Bonjour Stéphane.
Bonjour Lorraine, bonjour Marie, bonjour à tous.
Éditorialiste parce que vous allez encore nous pousser un coup de gueule. Vous êtes, le reste de la journée, dirigeant de SD Conseil et Formation. Et avec vous, on va parler aujourd'hui fiscalité et des loyers. C'est un appel à l'action que vous allez faire sur ce plateau, cher Stéphane.
Oui, un appel à l'action parce que effectivement les loyers en nu sont traités de la pire des façons. On atteint des niveaux stratosphériques, notamment depuis l'augmentation de la CSG, des prélèvements sociaux, donc en 2018, qui sont passés à 17,2%, puisque les revenus fonciers, une fois qu'on a déduit ces charges, le cas échéant, ces intérêts d'emprunt, ça vient dans votre revenu imposable global, donc ça va dépendre, votre imposition va dépendre de votre tranche marginale d'imposition, mais va supporter, vos revenus fonciers vont supporter votre tranche marginale d'imposition plus les prélèvements sociaux à 17,2, ce qui fait que même pour la première tranche d'imposition à 11%, donc vous êtes tout de suite à 11 plus 17,2, donc 28,2%, donc un petit peu en dessous de la flat tax, hein, vous savez que certains militent notamment pour que les revenus foncier soit comme les revenus financiers en général.
Ça
donc,
n'arrivera pas, ça.
À la flat tax.
A priori. Hein.
Bon, il y a assez peu
Sinon, on n'aurait pas eu la création de l'impôt sur la fortune immobilière.
Il y a assez peu de chance. Il y a assez peu de chance, effectivement. On doit bien, effectivement, s'en rendre compte aujourd'hui. Mais c'est vrai que dès la deuxième tranche, hein, là, pour le coup, vous êtes bien au-delà de la flat tax, puisque dès la deuxième tranche, à 30% de TMI, plus 17,2, vous êtes à 47,2%, pour ne pas dire la moitié, à 41%. Vous êtes à 17, plus 17,2, donc 58,2 pour ne pas dire 60%. Et alors, on atteint des sommets avec la dernière tranche à 45, plus 17,2, on est à 62,2, plus la taxe foncière, qui est déductible, mais il en reste une partie.
Et hors IFI.
Plus l'IFI, le cas
échéant.
Stéphane,
non mais je vous interromps. Est-ce qu'on a une idée, parce que c'est vrai que le profil du propriétaire bailleur, il est difficile à faire. C'est-à-dire que dans l'imaginaire populaire, le propriétaire bailleur, c'est un multipropriétaire qui gagne très très bien sa vie. Enfin voilà. On sait que ce n'est pas forcément tout le temps le cas.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'on a quand même un ordre d'idée du taux marginal d'imposition, en moyenne, des propriétaires bailleurs en France ?
Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, les gens qui arrivent à faire, après la résidence principale, à faire un investissement locatif, ils sont bien souvent à 30% de tranche marginale d'imposition.
On est plutôt autour de 30%.
On est plutôt autour de 30%. De la même façon, les retraités, puisqu'il y a beaucoup de retraités qui sont effectivement bailleurs, les retraités n'ont pas une grosse retraite, c'est sûr, mais comme ils n'ont plus d'enfants, donc ils sont un ou deux dans le foyer fiscal, donc ils sont vite, effectivement, pareil, à 30%
de TMI. Et donc, ça veut dire qu'en moyenne, bon an, mal an, si je prends vos calculs, on est autour de 47% de fiscalité en moyenne pour un propriétaire bailleur sur ses revenus locatifs.
Tout à fait.
Et c'est là où vous nous dites qu'il faut agir.
Oui, parce qu'il y a des solutions quand même, malgré tout. Il y a des solutions donc, pour pouvoir baisser ses revenus fonciers, enfin la fiscalité de ses revenus fonciers. Il y a des solutions qui peuvent paraître simples, qui ne coûtent rien, et notamment la première qui est d'organiser en fin de compte un transfert de vos loyers. Vous êtes surfiscalisé sur vos loyers, vous organisez un transfert de vos loyers sur vos enfants, qui par définition, si par exemple ils sont étudiants, ils finissent leurs études, ils vont démarrer dans la vie active, souvent ils n'ont pas de revenus, donc ça pourra constituer ces loyers que vous leur transférez, ça pourra constituer l'essentiel, voire la totalité de leurs revenus, donc auquel cas ils ne seront pas imposés.
Ça veut dire quoi ? C'est une donation en fait.
Oui.
Alors je donne les loyers que je suis censé percevoir moi, Marie, à mes enfants.
Le terme technique, c'est donation temporaire d'usufruit.
Parce qu'effectivement, ça veut dire quoi du coup ?
Parce qu'effectivement, c'est temporaire. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider de transférer les loyers sur vos enfants pour les aider quand ils finissent leurs études, par exemple, ou lorsqu'ils sont étudiants. Donc vous leur transférez les loyers sur la durée que vous décidez, pendant 4, 5, 6 ans. Et à ce moment-là, effectivement, vous n'avez plus, vous, vos loyers, mais c'est particulièrement intéressant lorsque vous aidez vos enfants. Parce que bien souvent, vos enfants étudiants, c'est vous qui allez les aider pour qu'ils puissent manger, se loger,
etc. Mais du coup, ça veut dire quoi techniquement, Stéphane ? Parce que ça m'intéresse. De fait.
Oui, bien sûr.
Alors, même si je
ne
suis pas propriétaire bailleur, mais qui sait un jour peut-être.
Mais ça viendra.
Ça viendra.
Vos enfants vont grandir.
Enfants grandiront, voilà. Ça veut dire concrètement que je leur verse l'argent sur le compte bancaire, j'ai aucune.
Ça veut dire que vous organisez tout simplement avec un notaire, parce que c'est quand même un peu officiel, ce transfert de loyer. Donc c'est inscrit à un moment donné. Ils ont l'usufruit des loyers pour une durée. Voilà. Donc l'usufruit des loyers. Donc pour une durée définie de 4-5 ans, comme vous décidez. Parce que, effectivement, au bout d'un moment, vous serez bien content de voir revenir ces loyers pour vous, notamment lorsque vous-même, vous allez être à la retraite, etc. Donc, vous leur donnez temporairement les loyers. Mais surtout, l'avantage pour vous, c'est que pendant cette période, vous les aiderez plus, vous les aiderez moins, plutôt que de leur donner 700 ou 800 euros sur de l'argent qui a déjà été fiscalisé chaque mois.
Les aide autrement.
Vous leur transférez les loyers, vous les aidez autrement.
Mais cet argent, surtout, il doit être déclaré.
Oui, il est déclaré.
Les enfants doivent le déclarer.
Alors, vos enfants les déclarent. Alors, petite quand même subtilité, il faut qu'ils soient, bien entendu, sortis de votre foyer fiscal.
Oui, oui.
Il faut les sortir de votre foyer fiscal et ensuite, eux seront imposés sur les loyers. Mais s'ils n'ont que ça comme revenu, ils n'auront que les prélèvements sociaux.
Ça
ne va pas du tout rentrer dans leur imposition.
Mais les 17,2 ne disparaissent jamais.
Non, les 17,2, de toute façon, vos enfants les paieront, etc. Donc c'est quand même très intéressant et ça ne coûte quasiment rien. Puisque, alors ça a quand même un coût, le coût d'une donation, dès qu'on donne quelque chose, il faut payer. Donc le coût, c'est 23% de la valeur de la pleine propriété. Donc si vous donnez un bien d'une valeur, enfin, l'usufruit d'un bien d'une valeur de 100 000 euros, ça va coûter 23 000 euros, 200 000 euros, 46 000 euros.
Ah ouais,
mais ça rentre, oui, mais ça rentre dans les 100 000 euros que vous pouvez donner tous les 15 ans par parent,
mais
par
donc,
enfant.
Du coup, ça
donc en fait,
zéro,
ça ne coûte rien.
Donc ça peut être zéro.
C'est zéro.
Okay,
c'est juste les émoluments du notaire, les quelques centaines d'euros de frais du notaire pour les inscriptions, ouais, etc., ce transfert d'usufruit temporaire.
On réfléchit à comment agir sur la fiscalité de vos loyers. La première solution que Stéphane nous propose, c'est un transfert de loyer aux enfants. Techniquement, juridiquement, ça s'appelle une donation temporaire d'usufruit. On s'engage pour une durée prédéfinie à transférer les loyers qu'on reçoit à ses enfants. Il faut que vos enfants soient sortis de votre régime
votre
foyer fiscal. Et ça coûte donc pas une paille, mais ça coûte une somme,
23% de la pleine propriété,
qui peut être déduite de cette donation tous les 100 ans.
Ça mange un peu vos 100 000 euros.
C'est pas d'IFI.
Et ça sort de l'IFI, puisque c'est l'usufruitier, si vous êtes redevable de l'IFI, c'est l'usufruitier qui paye l'IFI.
Qui paiera l'IFI.
Et donc, on imagine que votre enfant n'a pas...
Je vous aime, les enfants.
On imagine que votre enfant a moins d'1,3 million de patrimoine immobilier. Donc, ce patrimoine-là, pendant la donation temporaire du fruit, sort en plus de l'IFI. Cerise sur,
voilà, première
sur le
solution concrète. Vous venez avec une deuxième solution qui va plaire à Marie, faire des travaux.
Voilà, alors la deuxième solution qui est bien connue...
Mais il dit ça un peu coinsouille quand même. Hein.
Non, pourquoi?
Allez-y, déroulez.
La deuxième solution qui est bien connue, c'est de faire des travaux. Puisque les travaux, attention, pas d'agrandissement, pas de reconstruction, mais tout ce qui est amélioration, rénovation, isolation, électricité, la peinture, etc. Donc tout ça rentre dans les travaux déductibles. Donc quand vous allez faire des travaux sur votre bien, il ne faut pas hésiter à aller faire des travaux. Quand vous allez faire des travaux sur votre bien, ça va manger donc votre revenu foncier de l'année. Mmh. Et s'il y en reste, en général il y en reste, si vous faites 50 ou 60 000 euros de travaux, vous allez passer 10 700 euros l'année où vous faites les travaux, et ensuite vous allez mettre 35 ou 40 000 euros en réserve de déficit, et cette réserve va venir vous manger vos revenus fonciers pendant 4, 5, 6 ans. Donc ça, alors, mais ça, bien sûr, il faut que votre bien nécessite des travaux.
Donc si on achète une passoire thermique, là on en revient à la passion de Marie.
Voilà. Alors sur votre patrimoine existant, si vous devez faire des travaux, c'est bien, faites-les, surtout n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de bien à faire sur le bien, de travaux à faire, pardon, sur le bien dont vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi réaliser une nouvelle opération avec beaucoup de travaux, puisque cette deuxième opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération, puisque les revenus fonciers se cumulent, se fusionnent, donc le déficit d'une nouvelle opération va pouvoir venir manger les revenus fonciers de votre première opération, et là il faut doser les travaux suivant le besoin en déficit que vous avez sur une longue période, puisque vous avez, quand vous faites des travaux, vous avez 10 ans pour imputer vos travaux restants sur vos revenus fonciers, donc c'est aussi une très bonne solution.
Créer un déficit pour baisser la fiscalité, c'est intéressant, mais Marie, vous n'allez pas dire le contraire, gérer des travaux, c'est très chronophage.
C'est très chronophage, ouais, mais de toute manière, c'est obligatoire maintenant, donc du coup, on fait d'une pierre deux coups, hein, et puis en plus de ça, non mais pour le coup, les propriétaires bailleurs, ça fait partie des obligations, au-delà de la fiscalité très lourde, ça fait partie de leurs nouvelles obligations, donc ils doivent rénover. En plus de ça, ils ont aussi la possibilité d'avoir des aides, ça on le rappelle, hein, MaPrimeRénov', quand ils ont reboosté, recalibré MaPrimeRénov', changé, parce que c'était un crédit d'impôt auparavant, donc on a modifié un peu tout ce qui était le crédit d'impôt de transition énergétique fut un temps, est devenu MaPrimeRénov', qui est accessible aussi et aux copro et aux propriétaires bailleurs.
Et aux bailleurs.
C'est important de le dire.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Stéphane, vous ne partirez pas sans nous avoir donné une troisième piste pour que nous agissions pour baisser la fiscalité de l'immobilier. Racontez-nous.
Alors, la troisième piste, c'est effectivement de changer de régime.
Je vais
c'est
être très en colère là.
Que vous êtes. Attention. On y vient. Je vais me faire tancer par Marie encore.
Alors, déroulez d'abord avant de faire tancer.
Oui, oui, ça va. Donc, troisième solution, donc c'est de changer de régime. C'est-à-dire, vous êtes en location nue et vous allez pouvoir, effectivement, estimer que votre bien correspond aussi... Attention, il faut que votre bien corresponde à une location meublée. Donc, vous avez un studio, vous avez un T2, vous dites, je redonne 40%, 60% de mes loyers en impôts, SCG, prélèvements sociaux. Donc, je change de régime. Alors, à la faveur d'un changement de locataire, bien sûr. On ne peut pas, avec un locataire en place, lui dire, maintenant, c'est un bail meublé, etc. Ça ne fonctionne pas. Mais à la faveur d'un changement de locataire, vous meublez votre appartement et vous basculez en meublé. Et en meublé, bien sûr, à l'amortissement. Et l'amortissement du mobilier sur 5-7 ans et de l'immobilier sur de longues périodes, sur 30 ans va vous annuler globalement votre fiscalité. Si vous n'avez pas d'intérêt d'emprunt à déduire, ça vous annule votre fiscalité pour 10, 12 ans, 15 ans. Mmh. Si vous avez des intérêts d'emprunt en plus à déduire encore, alors ça peut vous annuler votre fiscalité en meublé à l'amortissement sur des périodes de 18, 20 ans avec le mécanisme des reports. Donc là aussi, c'est très intéressant. Mais il faut que le bien soit adapté au meublé. Hein, attention, si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, ça fonctionne pas. Il y a un tout petit marché ou une maison, il y a un marché qui va pas forcément fonctionner. Donc il faut que le bien, effectivement, soit adapté au meublé, que le marché ne soit pas saturé également en meublé, parce que on a eu souvent l'occasion de le dire avec Marie, il y a des marchés qui saturent en meublé. Le régime est tellement intéressant que tout le monde se met à faire du meublé. Donc il faut vérifier la profondeur. Est-ce que ce marché-là, il y a encore de la place pour du meublé? Donc il faut vérifier tout ça.
Ouais, mais Stéphane, justement, quand on s'était interrogé aussi sur la profondeur de marché, la réalité, c'est qu'il y aura toujours une demande. Regardez Paris, qui est quand même inondé de meublé. Je ne parle même pas du meublé saisonnier. Hein. Je ne parle même pas du meublé touristique. Hein. Il est inondé de meublé parce que effectivement, il y a des avantages tenants et trébuchants pour les propriétaires bailleurs. Le fait est qu'il y a plein de locataires qui ne cherchent pas de meublé, mais qui, faute d'avoir le choix, vont finalement opter pour le meublé. Et puis tant pis si je me paye le garde-meuble pour garder mes trucs. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, même si ça ne répond pas à la demande, le problème aujourd'hui, la crise du logement, elle est telle. Alors, quelque part, c'est un bon tips pour les propriétaires bailleurs qui nous écoutent. C'est-à-dire, faites du meublé dans les villes tendues. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour le prendre.
Oui.
Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'intérêt général derrière pour les locataires aussi, hein?
Alors après, on pourrait se dire aussi qu'il faut aligner et harmoniser la location nue et la location meublée. Pourquoi tout le monde va vers le meublé? Parce que qui veut moins de souplesse et plus d'impôts?
Exactement.
Donc voilà.
Le sujet, il est aussi dans le fiscal, on en revient.
Le sujet, il est effectivement aussi que les loyers nus sont tellement taxés que, effectivement, l'ensemble des bailleurs ont cette tendance à vouloir se tourner vers le meublé. Alors une autre astuce aussi, on va voir qu'il y a aussi des gros problèmes, mais une autre piste pour ceux qui effectivement ont par exemple un bien qui n'est pas adapté au meublé. Si vous avez un 3 pièces, un 4 pièces, il n'y a pas de marché pour le meublé, etc. Vous pouvez aussi basculer à l'impôt société.
Oh, ça va pas.
C'est-à-dire choisir effectivement de sortir des revenus fonciers et d'aller à l'impôt société. Si vous avez une SCI, vous la basculez à l'IS, ce qu'on appelle la SCI, à l'IS. Et à ce moment-là, comme en meublé, vous amortissez. Mmh. Et là, de la même façon, vous annulez votre impôt sur des longues périodes. Mais attention à l'impôt société, on est en régime donc société, donc on a une plus-value société. Donc, pour dire les choses clairement, on est massacré à la plus-value lorsqu'on veut vendre ce bien.
Il faut être sûr de ne jamais vouloir.
Il
ne
faut
pas changer en cours de route juste avant la revente.
Ce serait trop facile. Donc, il faut être sûr de jamais revendre, mais il y a deux choses de sûres hein, dans la vie, la mort et les impôts, comme disait Benjamin Franklin. Donc, parfois les gens me disent, moi, si j'avais gardé tous les biens dont je me suis dit, celui-là, je ne le revendrai jamais, je serais beaucoup plus riche qu'aujourd'hui. Donc, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il se passe toujours des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, attention à ça. Donc, c'est intéressant. Alors, si on est sûr de jamais revendre, il faut aussi faire attention de ne pas avoir d'enfants. Parce que si vous êtes sûr de vendre, vos enfants, 9 fois sur 10, ils vont vendre pour s'acheter leur résidence principale ou monter une affaire ou que sais-je. Donc, la SCI à l'IS, c'est bien si vous n'avez pas d'enfants ou si vous n'aimez pas vos enfants. Si vous voulez, en quelque sorte, les déshériter au profit de l'État. Donc ça fonctionne. Donc la SCI à l'IS, si on n'a pas d'enfants ou si on veut les déshériter au profit de l'État, c'est pas mal.
Un petit point sur la Bourse de Paris qui travaille aujourd'hui, ce 8 mai, et les affaires vont plutôt pas mal, les absents ont toujours tort. Plus 0,92% pour un CAC 40 qui cote à 8149 points. Alors à noter que ce sont les valeurs cycliques et traditionnelles qui assurent l'essentiel des hausses en volume parce que parallèlement on a un Euronext Tech Leaders, l'indice riche en valeurs tech européennes, qui lui ne grimpe que de 0,2%. Du côté des autres places européennes, sous performance très très nette du DAX à Francfort qui ne prend que 0,51% et plus 0,54% pour l'Eurostock 50. Qu'est-ce qui grimpe à Paris? Ce sont toutes les valeurs industrielles qui sont aux avant-postes avec Saint-Gobain, plus 2,5% à 80,36€. On a Airbus aussi, plus 2,27€ à 162,46€. On a également Legrand, plus 2,18€ à 99,28€. Et Schneider Electric, plus de 14. 14, 226,25 €. Alors à la baisse, il y a un secteur qui se distingue quand même. Renault est repassé très légèrement dans le vert, mais Stellantis reste quand même en baisse marquée, à moins 1,3% à 19,94 €. On a quand même eu une série de mauvaises nouvelles dans l'automobile ce matin. Toyota, qui malgré des résultats records sur le dernier trimestre de son exercice fiscal annuel, annonce une forte baisse de sa profitabilité, hein, a priori 20% en moins concernant les résultats à la fin de l'année prochaine, du fait de lourds frais d'investissement, hein, pour raviver certains compartiments de la production, hein, de Toyota. On a eu aussi des chiffres pas très encourageants de la part de BMW, hein, qui est quand même un constructeur à forte marge, l'une des plus fortes de tout le secteur, et qui là peine un petit peu, hein, sur les derniers mois. À noter que c'est Forvia, d'ailleurs dans le secteur auto, hein, qui signe la plus forte baisse du SBF 120, à moins de 3,15% à 14,92 €. Du côté d'Alstom, on est en hausse, mais une hausse un petit peu plus modérée que tout à l'heure, hein. C'est vrai que le titre a connu un début de séance extrêmement volatile, il a gagné jusqu'à 10%, là ça s'est un petit peu calmé. La plus forte hausse du SBF 120 d'ailleurs, elle est pour Air France KLM, qui gagne 4,02%, on est à 10,39 €. Très bonne pioche pour Solvay aussi, hein, qui a signé de très très bons résultats. Le titre était déjà en forte hausse hier et il poursuit. On est en progression de 3,4% à 35,96 €. Un petit coup d'œil sur l'échange. L'euro-dollar quand même relativement ferme, hein, malgré cette divergence, hein, toujours entre la Fed et la BCE. La Fed qui veut rester ferme sur ses taux pour continuer à lutter contre l'inflation. La BCE qui est prête à descendre ses taux prochainement. Du côté de la Fed, maintenant, on anticipe une première action sur les taux et a priori à la baisse. Plutôt du côté du mois de septembre, on a toutes les banques qui sont en train de revoir leur consensus, et Morgan Stanley est la dernière, hein, ce matin, à prévoir une baisse des taux de la Fed, mais il faudra attendre septembre. 1,0747 pour l'euro-dollar. Un petit coup d'œil sur le baril de Brent de Mer du Nord, tiens, qui continue de décroître. On est passé sous les 82 $ à 81,85 €. Il est 11h26. Restez à l'écoute de Tout pour investir. On va répondre à toutes vos questions sur l'investissement et sur toutes les classes d'actifs dans la deuxième demi-heure. Restez avec nous.
BFM Business, Tout pour investir. Lorraine Goumeau.
On répond à vos questions tous les jours à 11h30 dans Tout pour investir. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement au crowdfunding, au financement participatif, comme on dit en bon français pour nos auditeurs les plus puristes. Parce que figurez-vous que ce crowdfunding fête ses 10 ans. Et oui, 10 ans que vous pouvez financer de manière collégiale des projets. Et nous allons décrypter cette histoire de 10 ans avec deux invités. La première, c'est Florence Demopoux. Bonjour Florence.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Vous allez nous éclairer au cours de cette interview. Vous êtes accompagnée de Bertrand Desportes. Bonjour Bertrand.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes associé chez Mazar. On revient sur une étude que peut-être certains d'entre vous ont déjà pu regarder de près ou de loin sur le crowdfunding, qui dit plein de choses finalement de notre rapport à l'investissement. En 10 ans, peut-être qu'on peut démarrer par ça, si vous voulez bien. Bertrand, vous qui êtes de nature, comment dire, consulting, donnez-nous votre regard sur ce que dit l'intérêt du financement participatif pour les Français et les Françaises qui mettent des billes dans ce mode d'investissement.
Ah, vous avez raison, en fait, les 10 années du crowdfunding, les décrets d'application qui ont permis aux plateformes d'opérer datent de 2014, on est en 2024, donc on a vraiment un recul de 10 ans. Au tout début, le crowdfunding en France représentait moins de 200 millions de collectes par an. On est à plus de 2 milliards pour la deuxième année consécutive, ce qui veut dire que c'est vraiment ancré dans l'usage des Français en matière d'épargne, d'investissement, tout simplement parce que c'est des projets qui font sens, des projets de proximité, des projets qui apportent de la transparence et de l'intérêt à la fois économique, mais aussi il y a une dimension valeur qui est assez forte. Et puis le crowdfunding, il faut bien le dire, a des qualités intrinsèques. Vous choisissez vraiment votre projet, ce qui permet d'avoir un ciblage de son investissement, et ça, c'est tout à fait pertinent et dans l'air du temps.
Ciblage et proximité vous semblent deux mots pour qualifier ce financement participatif, chère Florence?
Oui, complètement, et j'ajouterais la transparence aussi. C'est vraiment l'essence même du financement participatif, la transparence pour l'investisseur ou le donateur, parce que peut-être pour...
On va revenir un peu aux origines,
très bien.
Parce que c'est, je vais vous faciliter.
Mais voilà, transparence parce qu'on choisit d'affecter son argent à un projet dédié.
C'est un peu un mot valise, le crowdfunding. crowdfunding. Je le vois d'avoir lu quelques auditeurs qui m'écrivent depuis le début de l'émission. On a un peu l'impression qu'il y a un peu à boire et à manger derrière ce mot. On a utilisé le mot plateforme. Il y a plein de plateformes. Mais qu'est-ce que c'est à la base le financement participatif? L'éthique.
Non, c'est vrai que ça recoupe une variété d'acteurs. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Hein, une variété d'acteurs. En fait, il y a trois métiers dans l'univers du financement participatif. Le don, donc vous allez avoir le don avec ou sans contrepartie. Sans contrepartie, on est plutôt sur le secteur associatif, avec contrepartie plutôt le secteur entrepreneurial. Et les contreparties vont être soit symboliques, soit on est quasiment sur de la prévente, du préachat pour le contributeur. Le prêt rémunéré ou non rémunéré ou l'emprunt obligataire. Donc là, on est dans une démarche beaucoup plus financière avec des taux d'intérêt qui peuvent aller de 4 à 12% en fonction du secteur d'activité, du risque de l'entreprise financée. Et donc sur des entreprises un peu matures, 2 ans minimum d'exercice comptable. Et puis l'investissement au capital, là, l'entreprise va... entreprise ou start-up va ouvrir son capital à de nouveaux actionnaires et tout un chacun peut mettre à partir de 100 euros parfois sur certaines plateformes au capital, enfin pour devenir vraiment actionnaire de l'entreprise. Donc c'est ça un peu toutes les variétés avec une centaine de plateformes qui existent dans l'univers du financement participatif.
Du don au prêt rémunéré ou pas, l'obligataire en parlant par l'investissement en capital, on voit la largeur de l'univers d'investissement dont on parle. Est-ce que vous pouvez nous rappeler finalement comment on devient investisseur, crowdfunder? On peut mettre sur, une fois de plus on va utiliser ce terme, directement sur une plateforme, mais ça concerne aussi les fonds.
Oui, alors les plateformes travaillent de plus en plus avec des fonds et collaborent aussi de plus en plus avec des CGP et des conseillers en investissement participatif, des conseillers en investissement financier, pardon, qui vont accompagner leurs clients et faire une analyse de telle ou telle plateforme pour pouvoir proposer cet outil de financement dans une démarche de diversification du portefeuille de leurs clients. Donc c'est vrai que c'est des canaux de collecte qui sont de plus en plus courants et que révèle le baromètre qu'on publie chaque année avec Mazars.
Justement, Bertrand, vous allez nous aider à prendre la mesure de ce crowdfunding. Mettez-nous quelques chiffres pour qu'on comprenne ce que ça pèse. Est-ce que c'est si important que ça? Est-ce qu'on a autant de gens investis en crowdfunding que d'autres pays? Est-ce vous pouvez un peu nous benchmarker?
Oui, alors déjà en France, on est sur une année à 2,1 milliards de collectes. Alors, c'est un petit peu en recul par rapport à 2022, puisqu'on enregistre une baisse de moins 11,3%. Alors le crowdfunding n'échappe pas aux réalités économiques des sous-jacents et l'immobilier pesant beaucoup dans le crowdfunding. Comme vous le savez, l'immobilier a enregistré plutôt une mauvaise année, moins 28% de collecte.
On va y revenir, aller sur l'immobilier.
On y reviendra, mais du coup, ça fait une année, oui, en demi-teinte, mais pleine de contrastes, parce que vous avez l'immobilier qui baisse et dans le même temps, on a les énergies renouvelables, le financement de la transition énergétique en éolien, en solaire, en biogaz, etc., qui, lui, progresse de 12%. Et il y a un dernier aspect qu'il faut avoir en tête, c'est l'innovation qui, lui, progresse de plus de 78%, ce qui est tout à fait considérable. Pour répondre à votre question aussi, il y a le nombre de projets qui est important. On dépasse pour la première fois 150 000 projets financés à l'année.
Alors 150 000 projets.
En balance avec 2 millions, il n'y a pas que des gros projets. Il y a même beaucoup de petits projets, de micro-entrepreneuriat, d'artisanat, de solidarité, puisque comme Florence l'évoquait, il n'y a pas que de l'investissement, il y a aussi du don et ça fait beaucoup de volumétrie. Mais c'est aussi ça le crowdfunding et c'est vraiment rentré dans les mœurs et dans les usages et c'est des projets qui sont le plus souvent à impact et qui font sens pour les porteurs de projets et pour les Français qui s'y intéressent. Par rapport à un benchmark européen, j'aurais tendance à dire que la France est très bien placée en termes de nombre de plateformes sous PSFP, qui est le nouveau régime et le nouvel agrément. On est en tête avec plus de 55 plateformes.
Il y a 55 plateformes sur 128 PSFP en Europe.
Voilà. Pour ceux qui nous suivent, un nouvel acronyme, mais très simplement, PSFP, c'est un agrément qui va permettre ou qui permet déjà aux plateformes qu'ils souhaitent de passeporter leurs activités d'un pays à un autre, enfin d'un État à un autre. J'ai bien résumé ?
Oui, alors il y a cette logique de passeport, il y a aussi cette logique d'obligation réglementaire, c'est-à-dire vous devez avoir des fonds propres réglementaires, vous devez avoir un dispositif de gestion des risques, vous devez assurer à vos investisseurs de la transparence sur les projets, du reporting, et vous classez vos investisseurs en non-avertis ou en avertis. Ce qui veut dire que, en fonction de la classification, ces investisseurs vont avoir le droit à un délai de rétractation plus ou moins long, à avoir plus ou moins d'informations, donc leur parcours d'investissement est jalonné. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Et le PSFP vous garantit ça.
C'est un vrai KYB, en fait, des plateformes vis-à-vis de leur... Enfin, KYB, non, pas exactement, mais du coup, c'est un vrai travail d'identification et de vérification que les plateformes doivent faire.
Oui, et c'est vraiment une garantie pour l'épargnant de passer par des plateformes qui ont cet agrément, parce que ça leur assure, finalement, plus de sécurité, plus de transparence.
Bertrand Desportes, de chez Mazars, Florence de Maupoux, de Financement Participatif France, du don au prêt, en passant par l'investissement en capital, quelles sont les grandes masses? Le don aujourd'hui pèse combien à l'intérieur du financement participatif? Est-ce qu'on sait ça?
Alors, en termes de nombre de projets, le don recense la plus grande masse de nombre de projets. En termes de volume, on est sur des chiffres un peu plus
160 millions.
160 millions, ouais. Voilà. En termes de nombre de volume collecté en financement en don, et c'est le prêt rémunéré et l'obligataire. Enfin, c'est l'obligataire en fait, surtout qui collecte 60-70% des volumes collectés sur l'année 2023 en crowdfunding. Et on est à 268 millions sur l'investissement en capital pour l'année 2023, donc une très belle progression aussi en 2023 de l'investissement en capital.
On va zoomer sur l'immobilier, on va aussi zoomer sur les projets d'énergie renouvelable qui, vous nous le disiez un petit peu déjà en sous-jacent, représentent une grosse partie du financement participatif, ou en tout cas sont des mots associés au financement participatif, l'impact. Mais avant, je voudrais qu'on touche un mot des projets dans lesquels on met des billes. Moi, je suis entrepreneur, je veux mettre mon entreprise, l'ouvrir à un financement participatif. Est-ce que le profil des entreprises a changé? Je ne sais pas, Bertrand ou Florence, qui veut commencer peut-être?
Non, je crois qu'il n'y a pas d'entreprise type pour le crowdfunding. Le crowdfunding, maintenant, vise très très large. Après, il y a des usages et des canaux un peu spécifiques. Effectivement, la promotion immobilière ou les marchands de biens, ils voient un intérêt parce que au-delà de leur financement en pré-commercialisation et le financement bancaire, ils ont besoin d'avoir des fonds propres, et ces fonds propres, ils vont se les faire refinancer par le crowdfunding. Donc, ça, c'est un premier usage. Il y a le financement de la transition énergétique, on y reviendra, mais c'est important d'avoir en tête qu'une plateforme de crowd qui fait du financement de projets type éolien, solaire, etc., a tout intérêt à associer la population locale via le crowdfunding, parce que ça lui donne des taux bonifiés de vente d'électricité à la revente, et par ailleurs ça assure l'acceptabilité du projet, puisqu'il y a une campagne de crowdfunding au cours de laquelle il va y avoir des tables rondes, des ateliers pour bien faire expliquer le projet en
évangéliser
long
large, les projets.
Évangéliser et le rendre plus acceptable pour la population locale. Donc cet outil, c'est un outil de communication et d'acceptabilité qui est assez fort. Puis après, il y a les TPE-PME qui s'en servent pour différents usages.
Il y a un peu pour chaque projet, chaque type d'entreprise, sa plateforme et sa typologie de financement. Après, peut-être sur les types de financement comme l'investissement en capital ou le don encore, on est quand même beaucoup plus sur des projets B2C pour que le contributeur, le parti contributeur comprenne dans quoi il investit et quel projet il soutient. Là où peut-être c'est plus varié sur le prêt ou l'emprunt obligataire, puisque l'investisseur va être plus dans une démarche de constitution d'un portefeuille et de diversification de son épargne avec à la fois la recherche d'un investissement sur de l'économie réelle et d'un impact, mais aussi le taux d'intérêt qui peut monter jusqu'à 12% en ce moment dans l'immobilier.
Tout pour investir. Investir autrement.
On s'occupe de parler, de fêter les 10 ans du crowdfunding dans Tout pour investir, puisque cette méthode de financement date de 2014. Oui, ça fait 10 ans, bien sûr, mais je veux dire, on aurait pu être moins dans un âge précis. Néanmoins, le crowdfunding est très souvent associé à l'immobilier. En l'occurrence, Bertrand, vous nous disiez il y a quelques minutes que la tendance était plutôt baissière sur les financements de projets immobiliers. Florence, quelques chiffres pour le comprendre.
Oui, alors comme l'a dit Bertrand, le crowdfunding immobilier, depuis quelques années, c'était vraiment la locomotive du secteur. Il y a un très fort attrait du crowdfunding immobilier avec des TRI qui sont en moyenne de 10,3% sur des maturités de 22 mois, donc très fort attrait. 2023, c'est la première année où en effet il y a une tendance baissière, puisqu'il y a une collecte la collecte était de 1,1 milliard versus 1,6 milliard en 2022, donc une baisse de la collecte de 28% en 2023. Et du coup, le crowdfunding immobilier ne représente plus que 55% des volumes globaux collectés en financement participatif, versus on était à 68% en 2022.
Est-ce que c'était une alternative à l'achat immobilier classique? Parce qu'on parle des 10 dernières années, donc d'une période où les taux immo étaient particulièrement bas. Comment ces taux bas ont soutenu l'investissement dans le crowdfunding immobilier, Bertrand?
Ces taux bas ont soutenu, en tout cas ont rendu très attractif le crowdfunding immobilier. Quand l'épargne réglementée, les livrets vous donnaient du 1%, 1,5%, le crowd en comparaison donnait du 9 à 10%. Évidemment, avec l'augmentation de la prime de risque, le crowdfunding s'est réajusté. Donc les taux ont passé le cap des 10% et vont progresser vers 11, 12%. Donc ça a toujours suscité un attrait pour avoir un rendement intéressant. Et puis c'est un outil de diversification par ailleurs par rapport à d'autres formules comme les SCPI, les fonds, l'épargne réglementée. Donc il faut toujours prendre le crowdfunding pour ce qu'il est, c'est-à-dire un instrument de diversification d'une épargne et non pas investir uniquement dans le crowdfunding. La bonne précaution d'usage, c'est d'investir sur plusieurs plateformes et sur plusieurs projets pour s'assurer de se garantir de toute difficulté qui peuvent être des retards, des projets qui mettent plus de temps à rembourser leurs investisseurs. Donc plus vous diversifiez, plus vous réduisez votre aléa.
Justement, le retard, c'est ce que je lis en pointillé dans un message d'auditeur de Laurent qui m'a écrit ce week-end, qui dit sur le crowdfunding immobilier, il est investi à hauteur de 10 000 euros dans une plateforme et il me parle justement du retard. Il me dit quand attendre un retour ? Est-ce que ces plateformes, by design, elles mettent du temps à répondre par rapport à d'autres domaines de l'investissement ? Est-ce que il y a des plateformes qui sont moins rigoureuses que d'autres ? Comment vous analysez ce secteur sans mettre des gens forcément à l'index ?
Je vais commencer, puis Florence me complétera. Je pense que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise plateforme. Elles ont toutes le même socle réglementaire. Après, il y a des projets qui peuvent être plus compliqués que d'autres parce que les niveaux de pré-commercialisation étaient plus faibles, parce que les garanties étaient moins importantes. Et après, il y a l'aléa de l'immobilier, notamment de la promotion immobilière. Pour livrer la construction d'un immeuble, puis ensuite pour le commercialiser, c'est pas une science exacte. Quand vous êtes sur un emprunt obligataire de 24 mois, il se peut qu'au bout de 24 mois, vous n'ayez pas complètement terminé. Donc, votre remboursement de la masse obligataire va différer. Mais néanmoins, ce n'est pas pour ça qu'elle ne va pas se faire, mais elle risque de se faire avec une prorogation qui amènera peut-être à une maturité finale de 36 mois. Pendant ce temps, les intérêts sont versés. L'objectif, c'est de tomber sur des projets qui n'aillent pas en défaut. Pour l'instant, les taux de défaut restent encore assez faibles et c'est ça qu'il faudra surveiller en 2024.
Florence de Maupoux, j'ai une question du même ordre de Franck qui nous suit régulièrement sur notre antenne. Il a investi des petites sommes sur deux plateformes. Une des deux plateformes a disparu corps et biens. Voilà. Est-ce que, comme dans tout domaine, voilà, il y a aussi ces plateformes, c'est aussi des startups, c'est aussi des boîtes qui ont
vu
le jour et qui ont traversé le tunnel de la mort.
Oui.
Comment on dit aux investisseurs là, qui peut-être, même si c'est des petites sommes, ont perdu de l'argent ? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter autant ?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si la plateforme fait défaut, comme l'a mentionné Bertrand...
Le socle est réglementaire de leur apporter.
Voilà, c'est un agrément. Hein, c'est pas un statut anodin, c'est un vrai agrément. Et elles doivent mettre en place une gestion extinctive de leur activité, un plan de continuité de l'activité. Donc, elles ont des règles à mettre en place. Et je ne sais pas de quelle plateforme il s'agit, mais a priori, soit elle a mis en place un plan de continuité d'activité et il y a un prestataire qui a été désigné pour continuer à récupérer, enfin à faire du recouvrement sur les projets qui sont en cours et à faire en sorte que les projets en cours se terminent dans les meilleures conditions possibles, soit la plateforme a été rachetée par une autre plateforme et c'est ce qu'on a vu ces dernières années la plupart du temps. Il n'y a pas eu de casse de plateforme parce que les plateformes ont été rachetées par d'autres acteurs.
Et rappelons aussi d'un mot, c'est que l'argent ne transite pas par les plateformes. Ça va du porteur de projet à l'investisseur et vice-versa, par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement. Donc, ce n'est pas la plateforme qui capte les fonds.
Oui, voilà, tout à fait.
Le fonctionnement de ces plateformes avec, vous l'avez dit, un même socle réglementaire. Pardon,
je voulais juste pour compléter ce que disait Bertrand aussi. C'est vrai que pour les investisseurs qui ont investi dans des projets, alors surtout en 2020-2021 et qui accusent des retards... c'est vrai que c'est très compliqué aussi pour la plateforme de donner toute l'information parce qu'il y a des procédures qui sont confidentielles. Donc il y a des projets qui sont en retard et comme le disait Bertrand, 2024, on verra un peu, on va atterrir sur certains projets et voir si ces prorogations on a pu sortir par le haut et récupérer les sommes investies ou s'ils passent en perte définitive.
Voilà ce qu'on pouvait vous apporter comme éclairage, cher Franck, bien sûr. Un mot pour finir ce portrait du crowdfunding en 2024, 10 ans après la naissance de ce domaine d'investissement, on va le qualifier de cette manière-là, ce sont les énergies renouvelables. Vous nous disiez, Bertrand, que c'était la grande tendance de l'année passée, de 2023. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On finance plus de projets.
Oui.
Les projets lèvent plus d'argent. Oui. Les deux.
Il y a une augmentation et du nombre de projets et du volume de collecte. Alors, il y a un socle réglementaire très, très puissant derrière. Il y a la loi énergie-climat qui oblige les acteurs de la filière de l'énergie de diversifier leur mode de production et donc de passer vers de l'énergie renouvelable. Donc, c'est le photovoltaïque, l'éolien, le biogaz ou encore l'hydroélectrique. Et les plateformes s'insèrent dans cette démarche-là. Il y a un écosystème très puissant de plateformes en France comme l'Endosphère, l'Endopolis, l'UMO, Enerfip ou encore WeSeed qui portent des projets et qui permettent à des investisseurs particuliers soucieux de cette transition écologique d'y participer et d'en bénéficier aussi de l'intérêt économique. Donc voilà, donc en termes de montant collecté, c'est 368 millions sur l'année 2023, ce qui est assez considérable et c'est en progression. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête là, compte tenu de l'appétence des Français pour cette thématique-là et des rendements qui sont eux-mêmes en progression avec de belles qualités de signature parce que les porteurs de projets, pour le coup, c'est pas des petits promoteurs immobiliers ou des petits marchands de biens, c'est souvent des acteurs de l'énergie qui peuvent être d'une certaine taille, donc qui offrent en plus des garanties financières et de la prévisibilité sur leur business plan très important. Donc pour les investisseurs, c'est en plus, je pense, une bonne diversification au sein du crowdfunding.
On parle de financement participatif en bon français. On ne parle pas beaucoup d'exit depuis tout à l'heure. Quel est, notamment peut-être à l'intérieur de ces projets d'énergie renouvelable, le pourcentage d'entreprises qui remboursent? Est-ce qu'il y a des secteurs où on rembourse déjà mieux? Parce que 10 ans pour un horizon d'investissement, ce n'est pas monstrueux pour peut-être les projets qui ont levé il y a une dizaine d'années. Est-ce que, voilà, aujourd'hui, on observe quand même des entreprises qui deviennent rentables et qui finalement remboursent les personnes qui ont mis des billes? Bertrand ou Florence?
S'il y a un retour sur, enfin, s'il y a une sortie des investissements. Oui, on a. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, Bertrand. Je sais pas si tu as
Sur les projets immobiliers.
Non, pas sur les, enfin, sur l'investissement en capital, du coup.
Ah oui, oui, sur l'investissement en capital, oui, il y a un certain nombre de startups qui remboursent leurs investisseurs et qui permettent, du coup, à la communauté d'investisseurs de dégager une plus-value. Après, on n'a pas de statistiques précises.
Pourquoi c'est compliqué d'avoir ces statistiques?
Parce que c'est sur une échelle de temps beaucoup plus longue et parfois il faut 5 à 10 années pour obtenir une vision globale. Donc on n'a pas consolidé la vision du nombre de start-up qui ont permis un remboursement. Mais néanmoins, il y a des dynamiques très intéressantes sur un certain nombre d'entre elles, avec des plateformes également très dynamiques et des nouveaux acteurs cette année, comme Crowdcube, comme Blast, comme Tudigo, WeSeed, qui sont très actives et qui proposent des opportunités en capital particulièrement attractives.
Impossible de parler de financement participatif et donc d'épargnants et d'investisseurs sans parler du travail de Paul Midi, qu'on essaye de documenter autant que possible dans cette émission. Peut-être un mot pour finir, Florent. Je rappelle que voilà, ce député a beaucoup travaillé pour rapprocher, je dirais, les épargnants, les épargnantes des entreprises. Justement, vous êtes directrice générale de Financement Participatif France. Dans les 10 prochaines années, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le crowdfunding?
On se projette très loin là. Non, c'est sûr que les dispositifs d'incitation fiscale tels que le dispositif mis en place par Paul Midi qui permettent de booster l'investissement des particuliers dans des jeunes entreprises innovantes de croissance ou de rupture avec des fiscalisations qui vont de 30 à 50% pour le particulier, c'est des dispositifs qui sont de nature à booster considérablement l'investissement des particuliers dans l'économie réelle. Donc c'est des choses évidemment que nous, au titre de financement participatif France, on impulse au maximum. Et là, dans les 10 prochaines années, si des dispositifs comme ça se maintiennent, on peut imaginer que l'investissement en capital qui a déjà fait plus 80% entre 2022 et 2023 continue largement sa progression. Et ça peut jouer aussi, ce qui est, je pense, un gros enjeu, à l'éducation financière, puisqu'on est en France assez peu éduqué à l'investissement, assez frileux, et donc ce type de dispositif peut permettre de prendre prendre des risques mesurés parce qu'il y a quand même une incitation fiscale qui n'est pas inintéressante pour justement aller financer l'économie réelle.
Bertrand Desportes, le mot de la fin, le chiffre de la fin peut-être pour finir.
Non, le mot de la fin, pour rebondir sur ce que dit Florence, il y a évidemment le dispositif Pôle Midi qui va inciter les investisseurs particuliers à aller sur le crowdfunding en equity. Puis par ailleurs, il faut rappeler que le crowdfunding, c'est l'accessibilité pour 100 euros. Vous pouvez rentrer sur des projets non cotés et il y a que ça qui permet de le faire finalement, parce que les fonds communs de placement à risque, les tickets sont beaucoup plus élevés. Oui. Et quand vous êtes business angel, on parle de tickets bien supérieurs. Donc le crowdfunding, oui, c'est quand même une belle initiation au capital privé des entreprises.
Un petit coup d'œil sur les marchés financiers pour terminer ce tout pour investir. Pas oublier que le CAC 40 est quand même en belle progression, plus 0,94%. On est à 8151 points. Là, on a bien verrouillé les 8100 points. Une belle hausse du CAC 40 avec l'Eurostock 50 qui ne gagne que 0,6% et plus 0,56% pour le DAX à Francfort. Mais encore une fois, ce sont les valeurs cycliques, les grosses valeurs industrielles cotées à Paris qui font la différence. Airbus qui gagne 2,5% à 162,78 €. On a Saint-Gobain plus 2,3%, 80,20 €. Et Legrand plus 2,14 à 99,24 €. Schneider Electric pas loin, hein, plus 2%, 226,10 €. À noter quand même qu'il y a 6 valeurs sur le CAC 40 dont la hausse dépasse 2%. Hein, donc techniquement un indicateur intéressant. Quelques valeurs à la baisse. À noter ArcelorMittal qui recule d'1,2% à 23,68 €. Il y a le secteur auto qui est quand même pas mal attaqué. Renault échappe au mouvement, mais Stellantis recule d'1,13% à 18,98 € avec les résultats de Toyota qui ont été publiés ce matin au Japon avec une profitabilité record sur le dernier trimestre fiscal annuel, mais des prévisions de forte baisse de la rentabilité pour l'année en cours due à pas mal d'investissements, la hausse des coûts des matières premières et d'acheminement. Donc tout ça met en difficulté quand même Toyota, mais de la même manière que Nissan avait fait exactement le même profit warning il y a quelques semaines. C'est Forvia qui signe d'ailleurs la plus forte baisse du SBF 100 avec un repli de 3% à 14,94 €. À noter également Atos qui figure parmi les plus fortes baisses, moins 2,39 € à 2,01 €. Arkema qui subit quelques prises de profit, moins 1,57% à 100,10 € après une bonne séance hier et des résultats qui ont été remarqués. Air France KLM signe la plus forte hausse de l'indice large de la Bourse de Paris, plus 4,3% à 10,41 €. Le CAC donc en hausse de quasiment 1%, plus 0,95 €, 8152 €. L'euro 1 $ 0,752 €. Et puis un autre chiffre important, c'est le pétrole qui a tendance à baisser sous les 82 $. Là, on est remonté un petit peu au-dessus sur le Brent de mer du Nord à 82,04 €. Ne bougez pas, tout de suite, vous retrouvez les meilleurs moments d'Avec vous, avec Sandra Gandoin. Et moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de Tout pour investir. À demain.
Tout pour investir sur BFM Business.